Françoise Tressard et la belle équipe en piste pour une récré mi-publique, mi-privée. Côté public, les Papous à l'Athénée de Bordeaux, dernier épisode, avec notamment Histoire de périphrase, Eva Almassy.
Pour moi, la vieille fille normande, c'est une espèce de Madame Bovary que la lecture de Madame Bovary aurait à jamais dégoûtée de l'idée même du mariage, sinon de la sexualité.
Côté privé dans notre douillet studio, joli dimanche, et puis Ripollin monocouche le roman, avec les personnages imaginés par Jean-Bernard Pouy.
Sur les conseils de Madame Cunégonde de Montargis-la-Ferté, demoiselle de compagnie de Mademoiselle Isabelle de Vierzon-Fourchambault, elle-même demoiselle de compagnie de Mademoiselle Pulchérie de Montreau-Putivier, Albert-Luc Milonnier décida de choisir le bon profil et le 13 juillet 1789, le portrait était fini.
Enfin, le DLA, quatre experts pour un piège littéraire de Jacques Vallée. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h58 pour un numéro spécial des Papous dans la tête qui commence donc dans l'ambiance chaleureuse du Théâtre de l'Athénée de Bordeaux où nous étions réunis samedi 11 avril dernier à l'invitation de Blanche Lockmann pour fêter le centenaire de la Société des agrégés dont elle est la présidente. 3 heures à jouer à nos Jeux Papous. Vous avez pu entendre 2 numéros complets des Papous consacrés à cette soirée, du joli dimanche Petit Nicolas à la bataille des 12 armées dans la forteresse de Pierre le Jargonneux. Reste le plaisir d'écouter tout de suite les suppositions, histoire de périphrase et la publipapoucité Spinoza. En piste, Dominique Muller, Patrice Caumont, Patrice Minet, Hervé Le Tellier, Lucas Fournier, Eva Almassy, Patrice Delbourg, Patrick Beignet et Gabriel Godard au piano et en chanson. Les Papous passent la grègue, troisième partie. Bon, autre chose, la récré dans la récréation avec le jeu des suppositions. Suppose que tu t'appelles, suis un court récit qui s'achève sur une chute calembourgeoise sur le nom en question. Et Patrice Minet a une petite histoire à nous raconter. Vous adressez à qui, Patrice ?
Et pourquoi pas à vous, Françoise ?
Oh, je serais contente. Je viens.
Oui.
Ça dépend comment je m'appelle.
Suppose que tu t'appelles Tôt.
Tôt.
Tôt, Françoise.
Tôt.
Tôt.
Tôt, c'est mignon. J'accepte, oui.
Tu fais un joli métier, puisque tu as un élevage de cochons.
Ah bon ?
Oui, ah le cochon, oh cochon quel animal. C'est déjà une bonne chose d'avoir des cochons. Mais toi, tu t'es réservé une spécialité, Tôt. Tu n'élèves que les cochons qui savent parler.
Ah
oui ? Oui, car, le saviez-vous, tous les cochons parlent. La plupart ont un vocabulaire assez limité, ils disent uniquement... Et ils se font souvent très bien comprendre. D'autres sont plus bavards... Et quelques-uns pérorent comme de vraies pipelettes. Ils sont intarissables, peut-être parfois un peu trop sérieux, et leur discours très édifiant. Mais, Tôt.
Oui, c'est moi.
Il y a une chose que tu ne supportes pas, c'est qu'on te raconte des bobards.
C'est vrai.
La vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et comme tu as remarqué que les porcs, quand ils ne disent pas la vérité, ont la queue qui se détire-bouchonne, tu es toujours placé derrière eux quand ils bavardent. Tu les écoutes, et patati et patata, mais si l'un d'entre eux a la queue qui se détire-bouchonne, immédiatement, dans ton fort intérieur, tu te dis « ce porte-manteau ».
Elle est magnifique, je suis très touchée qu'elle se soit adressée à moi. Je vous remercie, Minet. Eva Almassy, c'est à vous. Et pour qui l'histoire ?
Hervé.
Oh, il va être gâté aussi. Il est content, Hervé ?
Très.
Hervé, suppose que tu t'appelles Mars.
Mars ?
Mars.
Comme Mars.
Comme Mars,
oui. Voilà.
Permets-moi de remémorer les grandes étapes de ta vie, cité de mémoire. Comme tout bon martien, tu étais un peu vert à ta naissance. Mais ça s'est arrangé dès le premier cri, après une petite tape sur tes fesses que, ma foi, tu avais très jolies et plutôt roses. L'un dans l'autre, dès la maternelle, toutes les petites filles tombaient amoureuses de toi. Mais toi, à l'époque, tu ne t'attachais pas encore très facilement. Ta devise était bien « un marche et ça repart ». Mais en CE2, enfin la voilà, la grande affaire de ta jeune existence. Vénus, avec ses nattes, ses lunettes, ses dents de lait manquantes qui rendent son sourire si irrésistible. Mars et Vénus, à partir de ce moment, vous grandissez ensemble, collège, lycée, fac, unis tous les deux, et c'est rare, quasi comme des jumeaux siamois, par votre bosse commune des maths.
C'est vrai pour Hervé, oui.
Jusque-là, tout est juste.
Il a failli avoir la grègue. Non, c'est vrai, il m'a dit ça cet après-midi.
Oui, je mens.
Ah, comme le porc de Minet.
Moi, je mens tard. C'est beaucoup moins drôle, je supporte mens tard, ça n'a aucun sens.
Non.
Bref, dès qu'il y a une équation impossible à résoudre, Mars attaque et Vénus assure. Mais assez parlé d'amour. Tous les deux, vous regardez dans la même direction, le silence éternel de ces espaces infinis ne vous effraie point. Vous devenez astrophysicien et je pourrais compter tranquillement tes chroniques martiennes à la Ray Bradbury jusqu'à l'indispensable. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Si Vénus, sur un coup de tête et sur l'invitation de la NASA, ne t'avait pas quitté pour partir loin de toi, Mars. Ce jour-là, tu étais aussi rouge de colère et d'indignation que la planète dont tu portes le nom, et aussi vert de jalousie. Bref, tu broyais du noir en permanence et cela dure toujours. Vénus te manque, tu aimerais la recontacter, je dirais même plus, tu as décidé de la reconquérir. Aux dernières nouvelles, Vénus se trouverait au Chili, dans le désert d'Atacama, à manipuler les fameuses oreilles de la Terre à l'écoute d'une éventuelle vie extraterrestre. Hélas, elle a changé de numéro de portable. Ça semble mal parti. Mars, tu l'as perdu. Tu crois que tu ne peux plus jamais l'atteindre. Si, Mars, si. Et comme je suis gentille, je vais te dire comment. Tu as sûrement lu le best-seller « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus ». Hein ?
Oui.
Tu l'as lu.
Il est très réactif.
Ça a l'air bien, le titre est...
Même si le bouquin ne parle pas d'astrophysique, une chose est vraie. Les hommes ne savent pas écouter. Alors... pour ta reconquête, dresse haut tes antennes sur ta tête. La belle Vénus ne fait pas que capter les signaux venus du fin fond de l'espace intersidéral. Si tu écoutes bien, Mars, elle aimée.
Oh.
Il y avait au moins 3-4 titres des romans de Hervé
Radon. Et oui, j'ai apprécié. Marcel Achard, ça marchait moins bien.
Évidemment, les plus culturels, Marcel Aimé, que le porte-manteau, mais les deux sont très mignonnes. En place pour les périphraseurs. Le jeu des périphraseurs, en quoi cela consiste? Eh bien, j'ai choisi une petite phrase qui dit bien, avec très peu de mots, ce qu'elle veut dire. Et dans cette petite phrase, il y avait 3 substantifs. J'ai offert cette petite phrase à Patrice Caumont, premier périphraseur. Sa mission, choisir 3 substantifs, donc les 3, puisqu'il n'y avait pas le choix de la phrase, et les remplacer par des périphrases de son imagination, à lui de dire. Il ne s'agissait pas de trouver des définitions existantes. Et ensuite, il a inséré ces périphrases dans la phrase en jeu, dans la phrase de départ, et a offert son texte à Patrice Delbourg, qui a fait la même chose, qui a choisi 3 substantifs dans ce texte qui était assez copieux, les a périphrasés, les a distillés dans le texte de Patrice Caumont et a passé à Eva Almassy, qui a fait la même chose rigoureusement. Le texte final est un texte assez copieux qui s'est retrouvé dans les mains de Patrick Beignet, qui lui a fait le noble travail de dépériphraser, et peut-être a-t-il retrouvé la phrase de départ, ça c'est on le saura. On verra si abus de périphrase trahit le sens ou pas. On y va ? Patrice Caumont, la phrase que je vous ai donnée.
Le jardinier peut décider de ce qui convient aux carottes, mais nul ne peut choisir le bien des autres à leur place.
Ben, c'est une jolie phrase. Oui. Vous pensez qu'elle est de qui ?
Mauriac.
Non, mais pourquoi pas, non ? C'est de Jean-Paul Sartre dans Le Diable et le Bon Dieu. Le jardinier peut décider de ce qui convient aux carottes, mais nul ne peut choisir le bien des autres à leur place. Et c'est bien vrai, non ? Oui. Alors, pas abondance de substantifs, donc non. Vous avez pris ce qu'il y avait.
J'ai pris ce qu'il y avait, oui.
Oui. Et le jardinier, mais c'est un mot qui vous inspire, le jardinier.
Absolument.
Oui.
Jardinier. Voltairien à la française, très cultivé mais un tantinet bêcheur, qui se la joue romantique pour plaire à l'anglaise.
Les jardins à l'anglaise, oui, c'est joli.
Carotte, belle, souvent bien fanée, voire complètement râpée, qui vous rendent bien vos amabilités.
Oui, c'est vrai, on dit toujours que manger des carottes, ça rend aimable.
Oui. Absolument, oui. Mm-hmm. Et là, j'ai pris, parce que le mot, sinon c'était compliqué pour les autres derrière, le bien des autres. J'ai pris ce groupe.
Oui.
Alors là, il faut demander un peu d'explication. Le bien des autres, ben, le bien, c'est le plaisir vertueux, c'est le bon, le vrai, etc. Et les autres, parce que je faisais référence à Sartre sans le savoir, sachant que l'enfer, c'est les autres, c'est les habitants de l'enfer, donc des membres du club, donc ce sont les membres infernaux. Ce qui nous donne...
Ça va compliquer un peu,
oui,
non ?
C'était ça un peu le but du jeu aussi.
Oui.
Ce qui nous donne le plaisir vertueux des membres infernaux. C'est prometteur.
On va voir.
Le voltairien à la française, très cultivé mais un tantinet bêcheur, qui se la joue romantique pour plaire à l'anglaise, peut décider de ce qui convient aux belles, souvent bien fanées, voire complètement râpées, qui lui rendent bien ses amabilités. Mais nul ne peut choisir le plaisir vertueux des membres infernaux à leur place.
On reste assez proche, non, de la phrase de départ que je rappelle. Non, le jardinier peut décider de ce qui convient aux carottes, mais nul ne peut choisir le bien des autres à leur place. Patrick Beignet, vous êtes en bout de chaîne sur cet exercice, donc entre vous et la phrase de Sartre, il y avait Patrice Caumont que vous venez de découvrir, il y aura Patrice Delbourg, Eva Almassy. Vous, est-ce que vous êtes arrivé à une phrase qui ressemble plus ou moins à celle du jardinier, des carottes et du bien des autres de Sartre ?
Écoutez, je ne sais pas.
Ah bon ?
Oui, parce que je suis trop impliqué dans la fabrication de cette phrase, mais peut-être ça ressemble.
Bon.
Bah avec un énorme détour et...
Oui.
Voilà,
Mais il y aurait un point de jonction, peut-être.
Un équilibre des différentes parties.
D'accord. Alors, bon, Patrice Delbourg, vous ne connaissiez pas la phrase de départ, vous avez simplement reçu ce joli texte de Patrice Caumont.
Oui, j'avais guère le choix dans les substantifs, j'ai même un peu glissé puisque j'ai pris voltairien.
Oui, le voltairien.
Le voltairien, l'anglaise et les amabilités.
Vous avez compris le texte de Patrice Caumont ou pas ?
Sa chute me gêne un petit peu.
Les membres infernaux.
Oui, les membres infernaux, j'imaginais quand même quelques spectacles un petit peu permissifs, je ne sais pas.
Ah non, c'est pas ce genre.
Voltairien, touriste culturel importuné par les mystiques. Anglaise, vieille fille normande qui a pris le large. Et amabilité... Essaim de prévenance louche, destiné à masquer une exaspération.
Oui, donc qu'est-ce que ça donne quand vous insérez ?
Alors quand j'insère, le touriste culturel importuné par les mystiques, très cultivé mais un tantinet bêcheur, qui se la joue romantique pour plaire à la vieille fille normande qui a pris le large, peut décider de ce qui convient aux belles, souvent bien fanées, voire complètement râpé, qui lui rendent bien ses essaims de prévenance louche, destinés à masquer une exaspération. Mais nul ne peut choisir le plaisir vertueux des membres infernaux à leur place.
C'est un joli texte. Hein. Évidemment, on est un petit peu loin de Sartre, non ? Le jardinier peut décider de ce qui convient aux carottes, mais nul ne peut choisir le bien des autres à leur place. Est-ce qu'il reste quelque chose, Patrice Caumont, du départ ?
Oui, tout est là.
Tout est là, vous diriez.
Oui, non, je suis tout seul.
Bon,
c'est cohérent.
C'est cohérent. Eh bien, Almassy, vous n'aviez pas connaissance ni du texte de Caumont, ni de celui de Sartre. Vous avez reçu celui de Patrice Delbourg.
Voilà.
Que vous avez compris.
Que j'ai absolument compris et que j'ai trouvé très, très beau.
C'est bien.
Donc, ça m'a inspirée.
Ouais.
Je suis souvent inspirée par la beauté. Alors, j'ai pris la vieille fille normande, belle et exaspération. Ouais. Pour un bel équilibre aussi. Alors, pour moi, la vieille fille normande, c'est une espèce de Madame Bovary que la lecture de Madame Bovary aurait à jamais dégoûté de l'idée même du mariage, sinon de la sexualité.
Un petit temps pour la digérer, mais...
Oui, parce que la vraie Emma Bovary n'avait pas lu les romans qu'il fallait pour la bonne raison que son roman n'existait pas encore. Hein? D'où la mise en abîme de mon texte. Alors, Belle, j'ai convoqué là un très grand spécialiste des Belles. Plante préférée de Claude François, qui chante à l'égal des roses, des violettes, des magnolia forever et autres fleurs sauvages de sa discographie. N'est-ce pas? Ça coule de source. Elles sont toutes belles, 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 comme le jour.
Ah oui, oui.
Etc. Oui. Donc, c'est un vrai botaniste des belles. Hein. Et puis, exaspération. C'est une rage contre laquelle le docteur Freud et les syndicalistes de tous bords, plus tôt que Louis Pasteur, avaient inventé un vaccin efficace qui peut néanmoins se retourner contre eux.
Vous pouvez expliquer un peu, s'il vous plaît?
Je peux. Ben, cette rage peut... Bon, Freud aide, mais le patient peut aussi s'enrager contre le psychanalyste, hein, d'où le retournement, et les usagers contre les grévistes.
Hein. D'accord.
Vous allez comprendre.
Oui, s'il vous plaît. Insérez.
Dans le contexte. Le touriste culturel importuné par les mystiques, très cultivé mais un tantinet bêcheur, qui se la joue romantique pour plaire à une espèce de Madame Bovary, que la lecture de Madame Bovary aurait à jamais dégoûté de l'idée même du mariage, sinon de la sexualité, et qui a pris le large, peut décider de ce qui convient aux plantes préférées de Claude François, qu'il chante à l'égal des roses, des violettes, des magnolia forever et autres fleurs sauvages de sa discographie, souvent bien fanées, voire complètement râpées, qui lui rendent bien ses accents de prévenance louche destinés à masquer une rage contre laquelle le docteur Freud et les syndicalistes de tous bords, plutôt que Louis Pasteur, avaient inventé un vaccin efficace qui peut néanmoins se retourner contre eux, mais nul ne peut choisir le plaisir vertueux des membres infernaux à leur place.
Je constate, Patrice Caumont, que le plaisir vertueux des membres infernaux qui vient de vous, personne n'a osé y toucher. Ça faisait peur.
Ceci étant, on aurait pu raccourcir le jeu, il suffisait de donner la première définition à Eva, et puis le texte était gonflé.
Patrick Beignet, donc vous voilà confronté à ce texte qui provient de vos trois camarades. Je ne sais pas ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît dedans, je suis sûre que Claude François vous touche.
Absolument.
Voilà, j'en étais certaine.
Mais c'est surtout Eva qui me touche, parce que tout ce qu'elle a apporté était d'une limpidité telle que ça m'a simplifié le travail. Alors que la chute de Patrice Caumont, le plaisir vertueux des membres infernaux, comme dit Patrice Delbourg, ça va vers des... Comment dit-il, des pensées, des images permissives?
Des spectacles permissifs.
Des spectacles, voilà, que j'ai essayé de contenir en songeant que nous sommes sous l'égide de la société des agrégés.
C'est vrai.
Mais ça, c'était difficile à avaler, si je peux dire.
Non, pas vous.
Ah, baigné.
Donc.
J'essaie de dépériphraser.
S'il vous plaît, oui.
Voilà, bien le début, j'ai tout de suite vu assez clair, ou cru voir assez clair, dans ce touriste culturel très cultivé mais un tantinet bêcheur, j'ai reconnu un agrégé. Je crois que c'est une définition. Définition assez valorisante. Hein.
D'ailleurs, vous êtes agrégé vous-même.
Mais oui,
donc,
mais je ne suis pas dans la bonne catégorie, car celui-ci est importuné par les mystiques. À ça, on reconnaît l'agrégé de être classique, qui pratique le latin avec toute cette masse de textes mystiques. Bon. Alors, qui cet agrégé de lettres classiques doit-il affronter avec cette espèce de Madame Bovary, la lecture de Madame Bovary aurait à jamais dégoûté de l'idée même du mariage, sinon la sexualité? Pour moi, ça a été tout aussi immédiatement Madame le proviseur. C'est une sorte de figure, j'espère qu'il n'y en a pas ici. C'est pour moi une figure assez archétypique. Donc, c'est une proviseur qui a pris le large, qui a divorcé, qui s'est marié, malgré son côté, enfin, comme Mme Bovary d'ailleurs. Et donc, voilà. Voilà ce que j'avais reçu comme un premier paragraphe, parce que c'est vous sans doute qui aviez découpé ce flot, cette lave.
Ah bon, d'accord. Ça vient des Valmessy. Voilà. Oui.
Alors, cet agrégé a un grand pouvoir, il peut décider de ce qui convient aux plantes préférées de Claude François, qu'il chante à l'égard, etc. Ouais. Là, j'ai tout de suite reconnu les jeunes femmes, les jeunes filles, si on peut appeler comme ça, ce qui était l'entourage classique de Claude François. Hein. Mais enfin, en l'occurrence, en face de l'agrégé, ce sont les lycéennes.
Ah,
c'est,
oui.
Ces belles plantes qui ont tant de qualités. Bien qu'elle soit fanée ou complètement râpée.
Mais enfin, c'est bon, embêtant, quand même. Hein,
on a l'impression qu'on voit un vieux concert de Claude François en VHS. Hein. Le drame, c'est que quand l'image est restaurée, ça reste pareil. Bon. Donc, là, nous sommes dans un univers quand même plus raffiné, plus idéal, celui du lycée. Alors, il ne reste plus qu'à aborder le troisième paragraphe, ces fleurs qui lui rendent bien. Ces essaims de prévenance louches destinés à masquer une rage contre laquelle le docteur Freud et les syndicalistes de tous bords, plutôt que Louis Pasteur, avaient inventé un vaccin efficace. C'est assez simple, hein, même si ça n'en a pas l'air. Bon, il s'agit des rapports de l'agrégé de lettres classiques avec ses lycéennes. Il y a des prévenances louches, c'est pas très compliqué à comprendre. Oui, oui, oui. Pour masquer cette arcaïe, cette rage contre laquelle le docteur Freud et les syndicalistes de tous bords,
etc.
À mon avis, c'est la pulsion libidinale que la psychanalyse essaie de maîtriser. Oui. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le syndicalisme?
Oui, avec
je n'ai pas. C'est le seul point sur lequel je diverge avec Eva, c'est que Eva n'a pas lu Gustave Le Bon.
Non,
hein, la psychologie des foules de Gustave Le Bon, qui montre que les grandes manifestations syndicales et politiques ont un contenu érotique évident. Hein. Et c'est ça qui emporte les choses beaucoup plus que, au-delà de la sphère du politique. Mm-hmm. Si vous ne me croyez pas, allez lire Gustave Le Bon.
Avec bon. Plaisir. Oui.
Et donc, tout se met en place à partir de là assez clairement. Hein. Ouais. Freud et les syndicalistes tentent de maîtriser cette masse libidinale ou de l'individu pour Freud ou de la foule chez les syndicalistes.
Ouais.
Je ne sais plus comment est arrivé Louis Pasteur. Là, c'est une pure gratuité de la part d'Eva. Hein. Il est immédiatement écarté au moment même où il est cité. Alors, donc, qu'on me comprenne bien, l'agrégé, je crois être plus clair que mes prédécesseurs, l'agrégé sait dialoguer avec les lycéennes, hein, car elles savent, où est le bout de phrase, elles savent lui répondre. Hein. Les fleurs lui rendent bien ses essaims de prévenance louche, donc le dialogue fonctionne. Mais ça n'est pas le cas avec Madame le proviseur, car dans le dernier membre de phrase apporté, si problématique apporté par Patrice Caumont, j'ai vu l'administration, hein, les membres infernaux.
Ah.
Voilà.
Et donc, la phrase finale.
Eh bien, la phrase finale que j'ai reconstituée, c'est « Plutôt qu'une proviseur divorcée dont on ignore le désir, hein, nul ne peut choisir au plaisir vertueux.
Ouais. Hein,
donc, plutôt qu'une proviseur divorcée dont on ignore le désir, un agrégé de lettres classiques séduit les lycéennes qui, elles, répondent clairement à ses pulsions libidinales.
Oui, un commentaire, Patrice Delbourg. J'ai cru que vous alliez ouvrir la bouche.
Par rapport au texte initial, on voit bien le rapport de Claude François et des carottes.
Oui.
Lui aussi avait des fans.
Et on n'est pas si loin de Sartre. Le jardinier peut décider de ce qui convient aux carottes, mais nul ne peut choisir le bien des autres à leur place. Bravo, Patrick Beignet. Ceci est une pub, mais une pub Libapocité. Elle est écrite, comme toutes les autres, par notre maître S-pub, Patrice Caumont. C'est une pub Libapocité Spinoza.
Osez, osez Spinoza. Osez, osez Spinoza. De la pensée, c'est le mimosa. Premier qui fleurit. Osez Spinoza. Osez Spinoza. Osez Spinoza.
Vous avez acheté les disques de Descartes, le roi René, qui a de la méthode et des principes. C'est bon, c'est pop, mais il manque de souffle pour exploser ses méditations. Spino, lui, persiste et signe, seul contre tous.
Alors, écoutez L'Éthique, son nouvel album, qui reprend en écho The Best of René. Mais on repousse les limites avec sa batterie d'enfer. Plus qu'une sublime symphonie inachevée, c'est un hymne à la joie. Sa partition rythmée, façon algébrique, donne un ton neuf qui sonne le vrai.
C'est en majeur, plein de corollaires, à vous déboucher les coronaires. Un album salué par la critique pour Deleuze, des un rock. Spino, c'est le prince des philosophes.
Oui, osez Spinoza. C'est plein d'action et de passion, de corps et d'âme, c'est charnu. Avec Spino, enfin, le corps va rythmer la pensée.
Spino Gonzalez, c'est du rock. C'est du rock, que dis-je un rock? C'est une peine in soul, musique.
Dans le port d'Amsterdam, y a un malin qui pense, et les idées qui dansent, c'est son trip, c'est sa cam. Dans le port d'Amsterdam, y a un tailleur d'optique qui se fait tout un édame, la loi métaphysique. Dans son fort intérieur, ce trieur de lentilles cherche un dieu meilleur. Et une fille gentille, mais dans le cœur d'Abraham, loi de Dieu, loi des hommes, liberté pour ma pomme, les fanas sont des ânes.
Osez Spinoza, ça défanatise les fans. Il dit vrai Spinoza, c'est pas Pinocchio.
Il faut écouter les paroles de l'éthique contre l'a priori. L'éthique, c'est létal, avec le Talmud critique. Talmud.
Écoutez son chant marane, son fado judéo-porto-batave, et ses paroles. L'action, c'est l'âme qui dit vrai. La passion, c'est l'âme qui se goure.
C'est rare, un philosophe qui fait des vers et qui les taille et les cisèle pour vous aider à retrouver la vue.
Écoutez en stream le bonheur de song de ses corollaires qui dope les axiomes au rythme régulier, façon reggae, éthique et tac. Éthique et ta.
Spinoza, c'est l'oreille absolue. C'est la solution sans l'absolution.
C'est pas du talk, l'éthique. C'est pas du pop Spino, c'est de Livy. Spinoza, c'est 50 Shades de vrai. C'est toujours Amsterdam que commence la liberté qui défonce. Let's spin together.
Chez le penseur d'Amsterdam, y a l'idée qui
qui dérange. Les hommes sont pas des anges. Faut penser librement et croire en l'existant. À nier le destin, à faire taire le crétin, à l'étouffe chrétien. Et c'est le Conatus ou l'être persévère à saisir l'univers d'un sacré saut de puce. Mais un faiseur de loupe qui loupe et persévère, c'est une drôle d'entourloupe. Les juges seront sévères.
Les papous passent la grègue, c'est fini. Une récréation littéraire proposée par François Strossard avec Anne de Pelchin, Pierre Mine, Patrice Klein, Gilles Manet. Chargé de production, Roland Dandalex. C'était bon d'être en balade et en public. C'est bon aussi de jouer en studio, côté privé. Vive le dimanche, septième jour délicieux. Dimanche à célébrer papouement en pastiche. Jeanne Carillon se prête à l'exercice. Et quand c'est Jeanne, c'est chanson.
C'est un joli dimanche façon parole et parole. Pendant la semaine, jour après jour, je pense à toi. Joli dimanche, je te reluque, je te fantasme, je te désire sauvagement, j'en fais des nuits blanches. Mon dimanche, je t'attends fermement. Mon dimanche, tu peux bien faire de l'œil au lundi, au mercredi, vendredi et samedi. Moi, mon dimanche, je suis prête pour toi à oublier tout si tu es là pour moi. Dimanche, dimanche, dimanche.
Viens là que je te branche.
Dimanche, dimanche, dimanche.
Je délasse tes hanches.
Dimanche, dimanche, dimanche.
On se fend la tranche.
Dimanche, 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 dimanche. Oh oui, rien que pour moi. Joli dimanche. Quand tu arrives, je me délasse dans ma couette blanche. Oh mon dimanche, je m'éparpille les papilles. Je savoure lentement plus de pain sur la planche. La brioche, les pains au chocolat. Les chouquettes, tu peux bien les offrir le lundi, le mercredi, vendredi et samedi. Mais mon dimanche, je veux te déguster, toujours allongé, toi sur mon oreiller. Dimanche, dimanche, dimanche.
Un peu d'acrobranche.
Dimanche, dimanche, dimanche.
Je retrousse tes manches.
Dimanche, dimanche, dimanche.
Ça va, belle branche.
Dimanche, 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 dimanche. Oh oui, j'ai faim de toi, mon joli dimanche.
Et dans le rôle d'Alain Delon, c'était Patrice Minet.
Quelle merveille.
Les papous, c'est dans la tête sur France Culture.
Et aux papous, c'est l'heure du roman interactif, avec quatre écrivains, Jean-Bernard Pouy, Patrice Minet, Hervé Le Tellier, Eva Almassy, un roman en trois chapitres et un épilogue. Alors, au premier auteur, Jean-Bernard Pouy, revient la tâche délicate mais excitante d'inventer des personnages et une intrigue, de se lancer dans l'écriture et de s'arrêter à un moment palpitant de l'histoire, en offrant au suivant un choix entre trois hypothèses de suite possibles, toutes plus exaltantes les unes que les autres. Il faut donner envie à l'écrivain suivant de prendre le relais. C'est donc vous, Jean-Bernard Pouy, qui lancez cette aventure romanesque avec un titre de chapitre.
Il s'appelle « Un cheveu dans la soupe ».
Un cheveu dans la soupe, c'est
oui.
Un bon titre,
c'est,
ça.
Oui, c'est une métonymie. Enfin, bon.
Oui.
Le 17 janvier 1789... Grâce aux bons soins de Madame Vigée-Lebrun, Albert-Luc Milonnier reçut sa première commande officielle, celle d'exécuter le portrait d'Adélaïde de Montfort-Fromental, la jeune et jolie demoiselle de compagnie de la duchesse de Lamballe, elle-même demoiselle de compagnie de la reine Marie-Antoinette, oui. Elle-même madame et compagne du roi Louis XVI.
Attendez, je suis en train de dessiner l'arbre généalogique pour qu'on ne soit pas perdu. Oui.
Mais la jeunesse et la joliesse d'Adélaïde étaient gâchées sur la joue droite par une énorme verrue de la taille d'une pièce d'un louis, ce que la médecine moderne aurait nommé un super papillomavirus de type HPV 60.
Ah bon ?
Ça jette un froid. Hein.
On va sombrer dans le médical, vous croyez ?
Albert-Luc Milonnier sut immédiatement, en découvrant son modèle, et sans qu'on lui précise, qu'il devait peindre la jeune et jolie Adélaïde de profil.
Oui, du bon profil.
Or, ce n'était pas le profil gauche de la jeune femme qui était le plus avantageux, même si la peau était vierge de toute atteinte d'inclusion et isonophile contenant une kératine anormale. Car on pouvait y déceler un certain début de prognatisme disgracieux qui ruinait l'impression de jeunesse et de joliesse de la demoiselle. Alors que de face et de profil droit, si ce n'était le cratère verruqueux, la jeune et jolie demoiselle de compagnie était tout à fait charmante.
Oui.
Et ne parlons pas de ses atours avantageux qui auraient rendu, si elle l'avait connu, le roi précédent complètement maboule. Sur les conseils de Madame Cunégonde de Montargis-la-Ferté, demoiselle de compagnie de Mademoiselle Isabelle de Vierzon-Fourchambault, elle-même demoiselle de compagnie de Mademoiselle Pulchérie de Montreau-Pithiviers, Albert-Luc Milonnier décida de choisir le bon profil en éliminant toute trace de vacuolisation des kératocytes de la couche granuleuse et des couches supérieures de l'épiderme. Le peintre se mit au travail et le 13 juillet 1789, le portrait était fini, magnifique, lumineux, un réel hommage à la jeune et jolie demoiselle de compagnie. Il lui présenta son œuvre, tout tremblant, sûr de son fait, fier de sa délicatesse. Ce qui mit fort en colère la jeune et jolie Adélaïde, qui refusa son portrait et refusa aussi de payer l'artiste, en hurlant que sa verrue, c'était elle, que c'était sa marque, sa différence, sa personnalité, son âme même. Effondré, le peintre prit un pinceau, le trempa dans un gris de Naples et l'écrasa en plein milieu de la joue diaphane, éclairant le haut de la toile. Puis il partit en claquant la porte et quelques invectives comme quoi, un jour prochain, tout allait changer et que les demoiselles de compagnie en auraient plus beaucoup de compagnie, sauf celle des rats des culs de basse-fosse.
Ouais, il y a de la menace. Hein, ouais. Alors là, suspense, parce que vous arrivez sur trois possibilités de suite.
De suite. Alors, première hypothèse, en rentrant chez lui, Albert-Luc Milonnier s'aperçoit qu'est apparue sur sa joue gauche une belle verrue disgracieuse. Et son épouse se demande comment il a pu attraper ça.
C'est contagieux.
Deuxième hypothèse, alors qu'Albert-Luc Milonnier est au bord du suicide, le comte de Mirabeau, célèbre orateur hydrocéphale aux grandes dents et au visage tavelé par les cicatrices de variole, lui demande de peindre son portrait. Troisième possibilité, 5 ans après, Adélaïde le recontacte pour lui préciser que c'est justement grâce à sa disgracieuse verrue qu'elle a échappé à la guillotine et que donc elle lui redemande un portrait, cette fois réaliste.
C'est magnifique, hein. D'abord il y a tellement de personnages. C'est une fresque.
C'est que des demoiselles de compagnie, donc c'est pas...
Ah mais ça fait beaucoup de monde quand même.
Ça fait de la compagnie quand même.
Et puis le personnage d'Albert-Luc Milonnier est assez attachant.
Oui. Bon,
peintre, un peu désespéré, qui a des problèmes, respect de son œuvre ou pas.
C'est un artiste.
Alors quelle possibilité avez-vous choisi, Patrice?
J'ai choisi Mirabeau, c'est-à-dire la deuxième possibilité.
Ah, donc il va se retrouver à peindre Mirabeau et il va essayer de le rendre beau.
Oui. Mirabeau. Alors, j'ai trouvé un titre pour ce chapitre, Un teint bien fleuri.
Non, mais c'est un bon titre. Hein.
Merci. Une semaine plus tard, Albert-Luc Milonnier se présentait au château de la comtesse Lambourg de Loulette, une des plus proches amies du comte de Mirabeau. Ce dernier était présent et, pendant qu'on prenait le thé, la conversation roula autour du tableau désormais célèbre représentant Adélaïde de Montfort-Fromental. On rit beaucoup en évoquant le défaut principal de la demoiselle de compagnie, ce défaut masqué par la projection grisâtre qui maculait sa joue droite. Albert-Luc se défendit de toute interprétation, il était au contraire un fervent adepte de l'hypernaturalisme. Sa seule avancée dans l'art progressif, c'était cette tentative de tachisme, la première dans l'histoire déjà longue de la peinture à l'huile française. Le comte de Mirabeau le mit au défi d'effectuer, par le biais d'un portrait, une avancée dans une autre direction. Et on convint d'un rendez-vous pour la première séance de pose. Le 27 janvier, Mirabeau s'asseyait en face du peintre et de son chevalet. Quand tout fut prêt, Albert Luc saisit un pot de peinture rouge et en projeta le contenu en pleine face du comte, en épargnant cependant la perruque et le col de dentelle. « Deuxième tentative de tachisme », souffla-t-il à l'oreille de Mirabeau. Et là, trois possibilités.
Ah déjà, ah oui, oui.
Ah oui, là, les événements se précipitent.
Oui.
Première possibilité, Mirabeau le provoque en duel en lui laissant le choix des armes. Albert Luc propose un duel au pinceau petit gris.
Ouais, pas bête, pas bête.
Deuxième possibilité, on annonce l'arrivée surprise de Louis XVI venu prendre sa première leçon de peinture. Troisième possibilité, Mirabeau, très amusé par l'expérience, poursuit le peintre en lui projetant tout ce qui était à sa portée au visage, en particulier la peinture.
On est, Hervé Le Tellier, dans un pan de l'histoire de la peinture que moi, personnellement, je ne connaissais pas. Je ne sais pas si vous...
Non, moi, je découvre.
Vous découvrez aussi. C'est grâce à Jean-Bernard Pouy et à Patrice Minet. Alors, est-ce qu'on poursuit dans cette direction,
dans une de ces trois directions, oui.
Oui, oui. Non, mais l'avancée de la peinture.
Bien sûr, bien sûr.
Oui.
En fait, c'est parce que il accepte le duel. Donc, ils prennent rendez-vous. Le titre, c'est « Un matin dans la brume ».
Oui.
Titre du chapitre.
Oui.
Rendez-vous fut donc pris pour le lendemain dans la clairière de Boulogne. Albert Luc Milonnier avait pris pour témoin le vicomte Charles de Saint-Flour du Plessis, un ami de la mère d'Adélaïde de Montfort-Fromental, et Sigismond Plantier de la Chaise, dont il avait fait connaissance chez le marquis Philibert du Terrail, voici 2 ans. Pour Mirabeau, les témoins étaient André-Pierre de la Perche Diable, qu'il fréquentait depuis peu, un camarade souffrant de la même affection glandulaire, et croisé chez le docteur Fulgence Michaud-Bouvier.
Ah oui, très
et
connu,
enfin,
oui.
Bien sûr,
oui.
Et le duc d'Aumale Trapineau, dit Floupette.
Ah bon? Ah oui.
Ouais. L'arbitre, enfin, était Pierre Chabert, marchand de couleurs. Milonnier serra la main de Mirabeau et Saint-Flour du Plessis tendit aux deux hommes leurs pinceaux sans les emmêler. « Vos couleurs, messieurs !» demanda de la Perche Diable d'une voix de basse qui lui valait une certaine réputation. « Rouge !» dit Mirabeau, « je suis l'offensé !» Alors jaune, lança Milonnier. « Alors c'est à vous, monsieur Mirabeau !» Les deux hommes s'éloignèrent à 10 pas. Pierre Chabert, l'arbitre, qui connaîtra plus tard la gloire dans l'armée napoléonienne avec le grade de colonel, lança la pièce. Pile, c'est encore à vous, monsieur Milonnier. Milonnier trempa son pinceau dans la peinture jaune et d'un mouvement souple fit un moulinet. La peinture s'éparpilla sur une distance de 5 mètres. Mirabeau était intact. Eh bien, c'est à vous, monsieur Mirabeau, fit Chabert. Mirabeau plongea les poils de martre dans la texture rouge et décida d'un geste plus à l'horizontale. Le pigment, huileux, s'écrasa en paillettes grasses 5 mètres plus loin également sur les taches jaunes déjà au sol. Milonnier était immaculé. Puis ce fut à Milonnier, même échec, à Mirabeau, fiasco, Milonnier, rien, Mirabeau, pas mieux. Il faut les rapprocher, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, suggéra Michaud-Bouvier, dit Floupette. Et là, 3 solutions.
Ah, oh, déjà, c'est dommage.
Oui. Première option.
Le duel dur.
De... Oui, bien sûr, ça pourrait. J'ai envisagé un instant de le faire durer, mais.
Il y avait plus de peinture.
Mirabeau découvre une légère tache jaune sur son pouce et se déclare vaincu. 2. Milonnier accepte la proposition de Floupette. Les deux hommes sont désormais à 1 mètre l'un de l'autre.
Aïe.
3e option. Adélaïde de Montfort-Fromental a entendu parler du duel. Elle accourt et elle exige que les deux hommes la peignent en orange et par projection.
Ah oui.
Ah oui.
Ah mais elle est tellement moderne. Elle le sentait.
D'une modernité totale,
début,
du body
oui.
art.
Exactement. Oui. Je croise les doigts, je ne sais pas ce qu'Eva Almassi ferait pour la suite.
Merci. Bien sûr, je prends la 3e hypothèse.
Et voilà,
elle
accourt,
elle doit être peinte.
Oui.
Et j'ai beaucoup réfléchi au titre,
oui.
Au fur et à mesure. En écoutant JB, je pensais à Peau douce, mais enfin, Truffaut l'a déjà pris. Et
oui.
De toute façon, ce n'était pas le cas de la demoiselle.
Oui.
Après, je pensais tout simplement, par anachronisme, profil d'utilisatrice. comme maintenant il faut introduire nos profils dans Facebook, etc.
Ah, oui,
parce que c'est
oui.
une espèce de Facebook aussi.
Oui, c'est résolument moderne.
Quelle photo oui. mettre, quelle image mettre de soi. Elle veut la vraie image. Oui. Donc elle est très moderne
bien
en,
sûr.
En cela. Et puis après... En écoutant Minet, j'ai pensé à Tachisme, ta mère, puisqu'elle est devenue en quelque sorte la mère, la muse de tout cela. Et puis finalement, avec Hervé, je pensais à Ripollin monocouche.
Bien sûr.
C'est bien. Moi, ce que j'aimerais, c'est voir le tableau, c'est-à-dire Adélaïde pleine de taches oranges.
Nue.
Qui serait l'œuvre de Milonier et de Mirabeau quand même. Vous voulez bien le peindre pour nous, Jean-Bernard?
D'accord, mais il me faut un modèle. Hein.
Indifférence par la compagnie Luba.
Ainsi va la vie d'ici, la vie est là d'ici-bas. Elle débat et batterie, les premiers pas danser à devant les écoliers. Balancé dans l'air, sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Au fin de nuit d'abus du soufflet qui s'étirait, risait mon seul ton du blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, les piques et pocs aussi, va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le nous donc, dans des mots doux, au dit désir ici, efficace est à passer. Sur ton accordéon, tu touches à tout, j'ai voulu passer là, j'ai là du bout des doigts, aussi le songe à si tu médites des fois, je fasse firmement une note cassée. Cassée, on n'allait plus jamais dans la scène, la musique a fini, mélodie qui vit, et file là-bas, s'en va dédicacer la balade dans l'horizon. Sur ton accordéon, tu touches à tout, j'ai voulu passer là, j'ai là du bout des doigts, aussi le songe à si tu médites des fois, tu fasse firmement une note cassée. Cassée, on n'allait plus jamais dans la scène, la musique a fini, mélodie qui vit, et file là-bas, s'en va dédicacer la balade dans l'horizon. Ainsi va lui battre la vie ça va, tu l'as dit. Au bal aussi, c'est là que t'as tout vu passer, le passé dépaysé. Vas-y l'évasif, vas-y l'enfant, où peux-tu déjà? Jadis on l'a dit, mais il y a la question comme t'es oublié la Pascoumaco. Et si c'était dommage, pas si c'est un hommage aux hommes assis devant, vu de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le, dis-donc, dans des mots doux, on dit désir ici, l'efficace est à passer. Et si loneliness disparaît tout la noche, t'aimerais comme bec qu'un désir ambitieux assurément libère toute l'animal sauvage. La cause comme de la hate. T'abogo voilà, tu que triga, tu que traca, tu que toca, tu que riga, tu que raca, tu que rigo, ragunana, bebe mille un cop, fit comme un en quel copa, tu que triga, tu que taca, tu que toca, tu que riga, tu que raca, tu que rigo, ragunana, bebe mille un cop. Des exemples, une cop, du scope, un peu du barbu. À ton avis, ça se vit. Puis t'as l'hésitation qui va faire éclater le banc des ateliers. Balancé dans l'air, sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Au fond de nuit d'abus du soufflet, il s'est tiré, c'est bon, c'est le temps du blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, les piques et pocs aussi, va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le nous donc, dans des mots doux, du désir ici. Et puis cassez ta pampasse, c'est toi, 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 toi.
Dernière séquence de ce numéro du Papou dans la tête, le DLA. Un piégeur, Jacques Vallée donc, et quatre spécialistes. Au handball, on les appellerait les barjots, les costauds, les experts. Dominique Muller, Jérôme Clément, Patrick Beignet et Gérard Mordilla, parce que même s'il leur arrive de se tromper, ils sont très forts. Leur mission, analyser, avec des arguments littéraires si possible, analyser et donner l'auteur d'un bout de littérature ou de théâtre, choisi par Jacques Vallée avec l'intention de les troubler. Si ce jeu était facile, ça se saurait. Il ne l'est pas et c'est ce qui en fait le charme. Jacques Vallée, nous sommes concentrés, prêts à jouer avec vous. On écoute ces quelques lignes.
Le grand salon était, comme on dit, plein à craquer. Il n'y avait pas une place libre et, comme je ne sais quoi m'avait retardé, je fus contraint de jouir du spectacle debout. Mais la gaieté de la pièce m'attira de plus en plus en avant et je parvins insensiblement jusqu'au tout premier rang où je me trouvais enfin accoudé au dossier d'un fauteuil occupé par une dame. C'était ma blonde, mais nous ne nous connaissions pas encore. Et voici qu'inopinément, j'eus sous les yeux ses belles épaules arrondies, si séduisantes, pleines et blanches comme une écume laiteuse, au corps qu'il me fut parfaitement indifférent de contempler d'admirables épaules féminines, ou le bonnet à ruban couleur de feu qui couvrait les cheveux gris d'une respectable dame du premier rang. Près de la blonde était assise une vieille fille mûre de celle qui, comme j'ai eu l'occasion de l'observer plus tard, se niche toujours le plus près possible de femmes jeunes et jolies, en choisissant celle qui n'aime pas écarter d'elle la jeunesse. Mais il ne s'agit pas de cela. Je n'en parle que parce que la vieille fille en question remarqua ma contemplation, se pencha vers sa voisine et, avec de petits rires, lui chuchota quelque chose à l'oreille. La voisine se retourna et je me souviens que ses yeux brillèrent devant moi d'un tel éclat dans la pénombre que, surpris, je tressaillis comme d'une brûlure.
Oh, il l'a très bien lu, hein, puis on sentait l'émotion à la vue des épaules. Et de ma blonde, c'est joli cette expression, c'était ma blonde, comme s'il avait cherché partout sa blonde, non, Dominique
Muller. C'est un côté québécois.
Sa blonde, mais qu'il ne connaissait pas encore.
Et voilà, et c'est et ça oui. qui est mystérieux.
Et il y a une autre chose très mystérieuse, c'est que voilà, il décrit ses épaules, bien qu'il lui fût parfaitement indifférent de contempler d'admirables épaules. Ouais. Qu'est-ce qu'il venait faire ici, donc,
oui. Oui, c'est la question.
Oui. Une contradiction, voilà, effectivement.
Totale. Oui.
On voit
total.
Très bien.
Mais... Totale aussi avec la fin, parce qu'il dit « je tressaillis comme d'une brûlure ». Ça veut dire qu'il n'est donc pas indifférent du tout à cette personne, bien qu'il ne soit évidemment pas venu pour ça.
Mm-hmm. Il est venu faire quoi, Gérard Mordillat ?
Il est venu chercher une femme. C'est un dandy qui cherche justement avec qui il va passer la soirée.
C'est le contraire de ce que dit Dominique, oui.
Oui, mais je crois qu'il y a bien le côté misogyne du dandy qui voit, ouais, c'était ma blonde, il a choisi celle-là pour la soirée, et puis il regarde les autres avec un certain mépris, et même celle-là finalement, puisqu'elle va accepter ses avances.
Bon, enfin, on a l'impression qu'il choisit une pouliche dans l'assemblée, là.
C'est un peu
petit
ça.
Peu...
Ah, moi, je vois pas ça comme ça.
Non, plus. Non, Jérôme, non, moi, je, ben, Clément.
Moi, j'ai l'impression que c'est la naissance d'un grand amour, d'une grande passion. Et voilà, il est dans un salon et il y a une femme avec qui, après, il aura une vraie aventure. C'est pour ça qu'il se l'approprie en disant « c'était ma blonde ». Après, il va en parler beaucoup. Et puis, il raconte comment ça s'est passé. Il voit ses épaules. Je ne comprends pas très bien pourquoi elles lui font rien, puisque...
Mais oui, c'est très mystérieux, ça.
Là, il fait une digression sur les jeunes et les vieilles. Et puis, malgré tout, il tressaille d'une, comme une brûlure de ses yeux qui brillent devant lui. Donc voilà, il tombe amoureux fou.
C'est pas mal, c'est bien d'avoir une analyse de texte par Jérôme Clément, ça clarifie les choses. Patrick Beignet, même impression,
non.
D'accord ? Pas du tout.
Non.
Alors racontez-nous la situation selon vous.
Ah, la situation, ben moi je ne la sens pas, je ne la vois même pas la situation,
bon
je ne la comprends pas parce que je lis le texte d'un auteur qui met tout son effort, disons, à gagner du temps pour ne pas raconter son histoire.
Ah.
C'est encombré de tergiversations, de refus de dire le grand salon était, comme on dit, plein à craquer. Comme je ne sais quoi m'avait retardé. Pourquoi est-ce qu'il ne nous dit pas quoi s'il a quelque chose à raconter? Et c'est comme ça, tout du long. Il ne s'agit pas de cela. Bon, il ne s'agit,
alors, il s'agit
jamais
de quoi.
Voilà, il ne s'agit même pas des épaules, il ne s'agit même pas de la beauté de cette femme. Donc, ça m'énerve. Et donc, voilà, si l'entreprend de nous raconter une histoire, qu'il y aille. Moi, je suis prêt à l'écouter, mais qu'il me dise pourquoi il veut me raconter une histoire.
Donc, on en revient à l'hypothèse de Dominique. Il y a un texte,
pas,
et puis on ne sait pas pourquoi il est
ce
là.
Ce qu'il
quoi.
Vient faire là, voilà, j'ai une vague idée.
Ce serait quoi?
Je pense qu'il est venu chercher des bijoux. Je pense qu'il est là pour voler quelque chose.
Ah !
Ou pour s'expliquer avec un homme à qui il doit de l'argent, ou je ne sais pas quoi. Mais enfin, c'est une sombre histoire assez cynique.
Auquel cas, sa blonde, c'est sa complice. C'était ma blonde, elle est là pour...
Je n'en sais rien, ça, puisqu'ils ne se connaissent pas encore. Peut-être qu'il va peut-être s'en y prendre, je ne sais pas, en fait. Mais en tout cas, il est venu ici pour une sombre affaire.
D'accord, Gérard Mordier, on prépare un casse.
Peut-être, ce n'est pas une hypothèse à repousser, mais... Je crois que la chose va se faire effectivement. Je ne sais pas si c'est un vol, mais en tout cas, bien sûr, la blonde va devenir la complice de cette histoire, mais peut-être une sorte de victime consentante, pas autre chose. Je veux dire, on voit bien là un chasseur quand même, et donc il est à la chasse, il a trouvé sa proie. Il en fera ce qu'il en voudra, puisqu'il ne veut pas dire pourquoi il va le faire. Mais voilà. Mais moi, je vois pas. Je n'ai pas le côté fleur bleue de Jérôme, donc je ne vois pas d'histoire d'amour du tout. Là, je vois une histoire de séduction pure et dure d'un libertin qui va ensuite sans doute faire autre chose avec celle qu'il aura séduite.
Bon, bah, on a plusieurs traces possibles, oui, Patrick Beignet.
Ce qui est étonnant aussi, c'est que dès le début, il est peut-être poussé par une des raisons qu'on vient d'évoquer, mais en même temps, il se laisse prendre par la pièce. Hein. La gaieté de la pièce m'attira de plus en plus.
Il avance.
On a l'impression qu'il va finir sur Assène, tellement il est hypnotisé. Donc c'est un peu en contradiction avec cette, l'idée qu'il poursuit ou une femme ou des bijoux.
Mais c'est gai, moi, je trouve, tout ce texte. Il est joyeux. Quoi.
Dominique Muller.
Cette histoire se situe quand le narrateur est jeune, parce qu'il dit la vieille fimure de celle qui, comme j'ai eu l'occasion de l'observer plus tard, se niche. Ça veut dire qu'il arrive dans ce salon en n'y connaissant pas grand-chose, en étant encore... Enfin, c'est pas sa place, quoi, ce salon.
Peut-être, oui, de vous approuver.
Oui, ça pourrait ouvrir l'hypothèse que... C'est un roman fondé sur le voyage dans le temps, peut-être une structure fantastique. Il est en plusieurs époques à la fois.
Oui, parce que sinon, il aurait dit « comme j'aurais l'occasion de l'observer plus tard ». Donc il dit « j'ai eu », ça veut dire qu'il raconte alors qu'il est beaucoup plus âgé que le moment où cette scène se passe.
C'est très intéressant ce que vous dites, tous les deux d'ailleurs. Gérard Mordia s'est écrit à quelle époque ?
Moi, je pencherais pour le 19e siècle. J'ai l'impression qu'on est là fin 19e plutôt qu'un autre moment. Tout simplement parce que il y a les rubans autour les rubans, etc. Et les dames respectables qui vont au théâtre. Alors, en même temps, là aussi, les dames respectables qui vont visiblement voir une pièce comique. Donc, je sais pas si les dames respectables allaient, parce que c'était de plus la gaieté de la pièce, etc. On aurait pu s'attendre à voir des dames respectables aller voir plutôt des choses plus sérieuses.
Moi, je pensais que c'était la pièce, le salon, quoi.
Oui, moi aussi. Spécialement. On n'a pas compris la même chose.
Ah, mais moi, je pense que non.
Vous pensez qu'on est au théâtre ?
Peut-être, mais oui. Mais oui, parce que je parfume insensiblement jusqu'au tout premier rang.
Ça commence par le grand salon.
Oui, c'est du théâtre de salon.
C'est du théâtre de salon.
Dans un salon.
Oui, on est dans un salon. Mais
oui, d'accord.
C'est la même chose.
Un concert bourgeois, quoi. Je vois une espèce de musique de chant avec la fille de la maison qui est en train de brailler sur la scène.
Oui, peut-être, mais il n'y a même pas de scène.
On
joue une pièce.
Un café-concert, donc ça peut être pour les années 1890-1900.
Oui, moi je
vous
vois
êtes
ça.
D'accord sur l'époque tous, Dominique?
Oui, très nettement, à cause des vêtements.
Ça se passe dans ces années-là.
Oui, ça ne veut pas dire que ça a été écrit dans ces années-là.
Certes non, c'est peut-être le 18e siècle.
Et l'époque d'écriture alors?
Pas facile.
Non, pas facile. Le style est très limpide. Il y a peu d'éléments forts, peu de choses visuelles, je dirais, à part les détails sur la toilette.
Sinon, cette phrase démodée qui est « je tressaillis comme d'une brûlure ». On ne dit pas ça aujourd'hui, personne ne dit ça aujourd'hui, j'imagine. Personne ne me l'a jamais dit. Oui, très dommage.
Regardez-moi, Dominique. Voilà, ça y est. Je tressaille.
Comme d'une brûlure. Mais oui, c'est ça.
Est-ce que ça pourrait être une traduction, Gérard ?
C'est compliqué parce que si c'est une traduction, c'est une très bonne traduction. Avec cette chose curieuse quand même, c'était ma blonde, quoi. Ma blonde est curieux puisque plus loin, il dit c'était la blonde.
Ouais.
Bien sûr, il l'a choisie, mais sans doute que ça évoque quelque chose qui se passe avant cette scène-là, quand il prend la décision de trouver une blonde.
Non. Moi, je pense que c'est une femme qui l'a suivi dans la rue,
oui.
qui reconnaît.
Ah, peut-être, oui.
Elle arrive et il dit, tiens, là, voilà, je l'ai retrouvée. C'était
oui,
la blonde.
Oui. Très bonne idée.
Dans ce cas-là, Jérôme, il n'y aurait pas, mais nous ne nous connaissions pas encore.
Si, oui, il l'a rencontrée dans la rue.
Dans la rue. Oui. Il la suit.
J'entends bien, mais, oui, mais le lecteur
elle
est au courant qu'il ne la connaît pas encore.
Oui.
Oui, Patrick mais enfin, comme il est assez redondant hein, dans son texte, donc on peut penser que...
Mais il y a une sombre histoire avec le ton dans ce texte.
Oui, 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 absolument. Oui. Vous voulez bien nous relire ça, Jacques Vallée ?
Le grand salon était, comme on dit, plein à craquer. Il n'y avait pas une place libre. Et comme je ne sais quoi m'avait retardé, je fus contraint de jouir du spectacle debout. Mais la gaieté de la pièce m'attira de plus en plus en avant et je parvins, insensiblement, jusqu'au tout premier rang où je me trouvais enfin accoudé au dossier d'un fauteuil occupé par une dame. C'était ma blonde, mais nous ne nous connaissions pas encore. Et voici qu'inopinément, juste sous les yeux, ses belles épaules arrondies, si séduisantes, pleines et blanches comme une écume laiteuse, au corps qu'il me fut parfaitement indifférent de contempler d'admirables épaules féminines, ou le bonnet à rubans couleur de feu qui couvrait les cheveux gris d'une respectable dame du premier rang. Près de la blonde était assise une vieille fille mûre de celle qui, comme j'ai eu l'occasion de l'observer plus tard, se niche toujours le plus près possible de femmes jeunes et jolies, en choisissant celle qui n'aime pas écarter d'elle la jeunesse. Mais il ne s'agit pas de cela, je n'en parle que parce que la vieille fille en question remarqua ma contemplation, se pencha vers sa voisine et avec de petits rires lui chuchota quelque chose à l'oreille. La voisine se retourna et je me souviens que ses yeux brillèrent devant moi d'un tel éclat dans la pénombre que, surpris, je tressaillis comme d'une brûlure.
C'est un très joli texte, oui.
C'est très mystérieux.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, oui, oui.
C'est d'où ça vient, qui a écrit ça ?
C'est une belle et grande histoire d'amour qui débute pour vous, Jérôme Clément ?
Oui, 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 moi je tiens. Oui, oui, il la suit dans la rue, elle arrive dans la grande pièce avec le café et théâtre, il la repère, il retrouve sa blonde et puis après ça va démarrer, quoi.
Il y a une autre phrase très... Et voici qu'inopinément, juste sous les yeux, ses belles épaules. Pourquoi inopinément ? Elle est assise là-devant, c'est dans un... C'est très curieux.
Bah, mais... Parce que c'est pas ce qu'il cherche. Il cherche à se rapprocher de la pièce, donc...
Enfin, en même temps, il est assis au fond derrière elle, mais il dit qu'il s'accoude.
Oui, il jouit du spectacle debout.
Oui, oui, oui. Mais après, il s'approche.
Accoudé au dossier d'un fauteuil.
Voilà, il s'est appuyé sur le fauteuil.
Il a le droit, non ?
Oui.
Oui, mais donc, le fait qu'il ait ses épaules sous les yeux ne devrait pas le stupéfier comme ça, n'est-ce pas ?
Non, moi, le mystère, c'est qu'il les décrit très bien, ses épaules, pleines et blanches comme une écume laiteuse.
Mais c'est pas ça.
Je lui ai complètement égal.
Et qu'il dit qu'il s'en fiche.
Oui, alors que vous, vous avez l'air très troublé, rien qu'en disant la phrase.
Bah oui, mais oui. Voilà, ça me gêne un peu. Ouais.
Donc, qu'est-ce qu'il est venu contempler ? Voilà.
C'est qui, lui, Patrick ?
Écoutez, je ne sais pas, François, si je disais, mais je peux... En revanche, répondre à une question à laquelle je n'ai pas répondu. La question de la traduction ou pas.
Ah, bah oui, j'aimerais bien savoir.
Vous voulez avoir mon opinion
sur
cette intéressante question. Eh bien, je pense que c'est peut-être traduit de l'anglais.
Ah.
Ça pourrait expliquer les derniers mots. Je tressaillis comme d'une brûlure, qui sont peut-être plus faciles à placer en anglais qu'en français. C'est une intuition que j'expose.
Ah mais c'est bien ça. Donc on a trois pistes françaises, une piste anglo-saxonne, plutôt américaine, plutôt anglaise d'ailleurs.
Je dirais plutôt anglaise, mais ça se ressemble par certains côtés.
Oui. Ben, on est content, on a encore des choses à dire sur ce texte. Non ? Un nom alors ? Alors un nom anglais, Patrick Bénier. Ah,
oui.
Vous avez l'air interloqué, vous ne vous attendiez pas à la question. Si brutalement.
Je pense que c'est un roman, ça peut être un roman d'ordre fantastique.
Oui.
Je pense à des choses du genre Peter Ibbetson ou des choses comme ça. Des auteurs qui ne sont pas archi-célèbres, comme c'est Gérald du Maurier, c'est ça, Peter Ibbetson. Donc c'est peut-être l'obstacle, c'est qu'en principe on choisit des noms.
En principe on joue avec des très connus, oui.
Mais c'est, pour moi c'est la seule façon de résoudre les énigmes temporelles qui se posent. Alors, en même temps, puisque je suis du côté des voyages dans le temps, ça fait penser évidemment à Wells, mais ça... C'est pas vraiment du tout le style de Wells. Donc, j'arrive pas à répondre à la question.
À la question, je reviendrai vers vous tout à l'heure. Dominique Muller,
justement, à propos du temps, peut-être que c'est Oscar Wilde et le portrait de Dorian Gray.
Ah.
Et donc quelqu'un qui n'aurait pas d'âge, qui n'aurait plus d'âge, qui ne saurait plus quel est son âge. Voilà.
Oscar Wilde.
Oui.
Allez. Hein. Alors, ce grand, beau, pur roman d'amour, Jérôme Clément, de qui est-il?
Je ne sais pas, parce que je suis tellement pris par l'histoire que...
Ah, ça se point, oui.
Je n'arrive pas à savoir de qui c'est. Oscar Wilde, je trouve que c'est une bonne idée, j'avoue que j'y ai pas pensé.
Je trouve que venant de vous, idée. Ça me flatte beaucoup.
Non, 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 pas du tout, c'est une très bonne idée. Non, je ne sais pas pourquoi, mais un nom qui m'est venu, Edgar Poe, mais je ne sais pas si c'est...
Ah ben, bah, c'est un peu...
Voilà,
oui, c'est... pas tellement loin. Penser aussi, oui.
Oui, c'est pas tellement loin, c'est celui que j'avais noté.
Edgar Poe, bon, Gérard Mordillat.
Moi, à cause du côté dandy, je pense à Barbet d'Aurevilly.
Ah oui.
Parce qu'il y a la dimension un peu fantastique aussi.
Du fantastique.
Mmh. Je pense que c'est un bon argument, le fantastique. Ah oui. Et le côté assez misogyne, au fond, et dandy. Et je vois bien Barbet d'Aurevilly.
Ah oui, une vieille maîtresse, le rideau cramoisi.
Oui, oui. Ouais,
c'est bien.
Patrick Beignet, je reviens vers vous. Je suis désolé, ça n'a pas évolué.
Je suis dans le même état. Non, non. Le nom d'Oscar Wilde lancé par Dominique est effectivement très séduisant, mais on ne peut pas trop reprendre les bonnes idées des autres, quand même.
Bah, mais Edgar Poe aussi, je trouve.
Edgar Poe,
c'est
quand même. Il y a plus d'esbrouf dans le style, je pense.
Alors, mais cependant, il faut que vous nommiez quelqu'un.
Oui, mais au début, je pensais à Jules Verne. C'est pas vraiment le style de Jules Verne. C'est même pas du tout le style de Jules Verne. Mais la situation, le décor, ce grand salon, ça a à voir. Je vais prendre Jules Verne puisque je ne trouve personne d'autre. Voilà un argument littéraire.
Mais ce serait son genre de s'apesantir comme ça sur les épaules rondes, blanches.
Mais il ne s'apesantit pas.
Enfin, justement, il les dédaigne finalement. Mais enfin, il les nomme quand même. J'ai l'impression que Jules Verne ne s'occupe jamais des épaules.
Voilà, nous ne parlons pas du même Jules Verne alors.
Bon.
Non, non, il est capable de s'intéresser à des épaules.
Ah bon ? D'accord. Jacques Vallée, vous avez entendu comme moi. Alors, nous avons un Jules Verne pour Patrick Beignet, un Oscar Wilde pour Dominique Muller, un Edgar Poe pour Jérôme Clément, un Barbet d'Aurevilly pour Gérard Mordillat. Que du beau monde.
Oui, et puis beaucoup de choses justes qui ont été dites, mais malheureusement, il n'y a aucun de ces noms dans la liste que je vais proposer.
Mais des fois, on argumente très bien, puis on a tout faux. C'est étrange. Oui. Hein.
Et je propose Stendhal, Dostoïevski, Casanova.
Il y a un grand silence là, subitement.
Non, moi j'en reste à mon voyou, donc je dis Casanova.
Ah, elle en tient pour le vol des bijoux ou voyou, du tableau.
Un voyou, quoi, un voyou. Quelqu'un est venu faire une voyouterie.
Dominique Casanova. Gérard Mordillat.
Moi je penche plutôt pour Dostoïevski. Parce que justement, il y a cet embarras dans la société, et il y a souvent ça chez Dostoïevski, des personnages qui sont en butte à une société qu'il regarde avec jalousie. Et donc, il y a là quelque chose de cet ordre-là, d'un homme qui... c'est peut-être un passage du joueur de Dostoïevski, du moment où il rentre, et puis il se sent humilié, pas à sa place, et en même temps, il doit y aller. Et ça, je pense que c'est un des caractères qu'on retrouve très souvent chez Dostoïevski.
C'est argumenté. Jérôme Clément, Stendhal, Dostoïevski, Casanova.
Casanova, comme Dominique, ouais. Parce que c'est enlevé, c'est assez léger, c'est la poursuite d'une femme, donc il y a quand même beaucoup d'éléments. C'est un salon qui peut parfaitement être un salon du 18e, avec aussi ses contradictions. Même la contradiction peut s'expliquer comme ça, c'est-à-dire il voit des épaules, mais au fond, c'est pas...
C'est
la conquête, quoi. Donc voilà, il joue avec tout ça, et ça peut être un passage, un prélude à une aventure parmi beaucoup d'autres.
De même, les passages du temps, là, si ce sont des mémoires, ça colle parfaitement.
Ouais. Enfin, le grand amour romantique chez Casanova...
Moi, j'ai dit voyou, moi, j'ai jamais dit amour romantique.
Patrick Beignet.
Mais j'arrive pas à croire que Stendhal accumule le genre d'imprécision, les « comme on dit », comme je ne sais quoi. Mmh. Il est désinvolte, c'est sa force, mais c'est pas de cette façon-là. Je ne sens pas non plus Casanova, donc je vais me rabattre sur Dostoïevski.
Et un peut-être petit effectivement, argument.
Le joueur, peut-être. Ouais. Enfin, ces scènes de société, ça pourrait être ça, mais je ne suis pas très très intimement convaincu que je dis la vérité.
On va le savoir très vite. Jacques Vallée, on vous propose deux Casanova. Ce sont les choix de Dominique Muller, de Jérôme Clément, de Dostoïevski pour Gérard Mordier à Patrick Beignet. Pas de Stendhal.
Non.
C'est l'impasse.
Non. Oui, on pouvait penser.
Ah bon, donc il n'y a pas de Stendhal.
Il n'y a pas de Stendhal, il y a deux gagnants.
Ben oui, forcément. Le suspense est intolérable.
C'est de Fyodor Dostoïevski.
Eh ben.
Ah bon, bah écoute.
Et c'est dans
C'est une nouvelle écrite lorsqu'il avait 28 ans, lorsqu'il était en prison, qu'il attendait son procès. Et c'est une nouvelle qui s'appelle Un petit héros. Et l'énigme vient qu'il s'agit d'un jeune garçon de 11 ans qui est invité à passer le mois de juillet dans une villégiature proche de Moscou. Et là, il y a continuellement des fêtes, des divertissements. Et sorties à cheval, promenades en forêt, repas champêtres, danse, musique, théâtre. Et cet enfant est amoureux d'une belle dame. Ce n'est pas la blonde en question, là, dans l'extrait. Parce que cette blonde, c'est la vedette de la compagnie qui ne cesse de se moquer de lui. Et alors, pourquoi devient-il un héros, ce petit garçon? Un matin, toute la maisonnée se prépare à une randonnée. Mais il n'y a plus de cheval pour le petit garçon, alors il se désole. On attend un cavalier en retard et le seul cheval qu'il reste pour ce cavalier, c'est un étalon sauvage que personne n'a réussi à monter. Et quand ce cavalier voit cette bête farouche qui se cabre, qui roule des yeux hagards, injectée de sang, il se déballonne. Et la cruelle blonde, pour faire rire la compagnie aux dépens de l'enfant, le provoque. « Eh bien toi, le pleurnicheur, ne veux-tu pas essayer ?» Et piqué au vif devant la femme qu'il admire, qui est dans l'assistance et qui le regarde, il bondit sur le cheval qui s'emballe. Enfin, il sera sauvé, mais après, il y aura plein d'aventures avec cette dame, mais c'est pas amoureux, c'est... Il rentre pour la première fois dans la société, il y a des tas d'aventures mondaines après, et Dostoïevski écrit « C'était ma première et très sérieuse impression de beauté ». C'est une très belle nouvelle.
Ça a l'air magnifique.
Oui.
Tout à fait magnifique. Bravo Patrick Beignet, Gérard Mordia. En tout cas, il n'y avait pas d'histoire trouble. Il n'y avait pas de vol de bijoux, Dominique. Pas de vol de tableau. Et les épaules de la blonde, on comprend finalement. Elle n'intéressait pas du tout.
C'est pas sa dame.
Trop petit.
Mais il est quand même touché. On a 11 ans, on n'est pas moins homme.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par François Strossard avec Anne de Pelchin et Olivier Dupré. À télécharger sur franceculture.fr pendant un an pour vos collections de papous. À réécouter quand le désir est là et pour le plaisir. Vous pouvez aussi écouter directement sur votre ordinateur, tablette et autres pendant 1000 jours. Et puis, baladez-vous sur nos pages vides du club et les livres des papous. Déposez vos commentaires, questions, suggestions. Et découvrez les nouveaux livres, spectacles, expos des membres de notre petite bande. Au revoir. Dans quelques instants, vous retrouvez Antoine Perrault pour Tire ta langue sur France Culture. Passez un très bel après-midi à l'écoute. Tiens,